Venez ce soir, à partir de 21h, on se pose au Gambier pour un autre voyage en Polynésie. France Inter.
La différence.
15h03 sur France Inter. Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Je vous fais entendre le rafale de Saint-Dizier qui est actuellement, comme très souvent, en train de subverser au-dessus de la ville, au-dessus d'un quartier très urbanisé. Et c'est le pilote qui accompagne notre président pour essayer de vendre cet avion magnifique. Ce matin, grosse activité, beaucoup de rafales sont parties vers le sud. Le son va arriver, je le vois. Écoutez. Là, il monte dans les nuages. Il va faire un looping. C'est très impressionnant. Il fait le tire-bouchon en montant dans les nuages. Là, il pique à nouveau vers le sol. On a l'impression qu'il ne pourra jamais se redresser. Les petits plaisirs. Voilà, c'est un jeune homme qui est aux commandes. Un jeune pilote. Il semblerait que dans certains métiers, à partir de 25 ans, on est un grand vieillard. La démonstration va durer quelques minutes.
Bonjour à tous les AMG, ici Perrine de Barcelone. Je viens un peu vous donner des nouvelles suite aux émissions qui ont été consacrées à la Spanish Revolution par l'équipe de Daniel Mermet. Donc, à Madrid et Barcelone, les assemblées générales ont voté l'arrêt des campements nocturnes et ont décidé de se concentrer sur la décentralisation du mouvement. Donc maintenant, les assemblées générales se passent dans les quartiers, réunissent plusieurs centaines de personnes dans une vingtaine de quartiers, aussi bien à Barcelone qu'à Madrid, et dans toutes les autres grandes villes d'Espagne, mais aussi les villages, comme vous pouvez le trouver sur les sites internet correspondants. Les rendez-vous à ne pas manquer, les rendez-vous à venir. Le mercredi 15, il y a une mobilisation générale devant le Parlement pour empêcher le vote des coupes sociales. Le dimanche 19, c'est l'anniversaire du 15 mai, date à laquelle a commencé tout le mouvement, donc sur le thème « Don't pay up à leur crise » et une vraie démocratie tout de suite et maintenant. Donc c'est aussi un appel à la grève générale qui sera décidée pour plus tard. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le blog du Café Repère de La Barna, si j'y suis, .over-blog.es.
Bonjour, je voulais avertir les auditeurs qui ont aimé ce que raconte André Gorff, qu'il était aussi parrain d'une revue qui s'appelle Écorêve, et en allant sur le site de la revue, donc écorêve.org, vous pourrez lire son dernier article, celui qu'il nous avait donné 3 jours avant de mourir, et vous pourrez aussi lire beaucoup d'articles qu'il a écrits tout au long de la vie de la revue. Écorêve.org. À plus.
Oui, Daniel, j'ai retrouvé sur mes étagères « Écologie et politique » d'André Gorff, un livre de poche de la collection Point Seuil. Tous les textes datent des années 70 et pourtant avec 30 voire 40 ans d'avance, ils annoncent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ainsi, dans le chapitre sur les multinationales, on peut lire « Avant la fin du siècle, les États-Unis feront fabriquer à l'étranger la totalité de leurs produits manufacturés et n'auront plus sur leur territoire que des industries scientifiques et tertiaires. Les Américains deviendront un peuple d'employés de banques, de technologues et de militaires, occupés principalement à protéger et à faire fructifier les milliards prélevés sur le travail des autres peuples. Et aussi, les firmes européennes désirent que l'Europe demeure leur chasse gardée jusqu'au jour où elles seront assez fortes pour se lancer à leur tour à la conquête des marchés d'outre-mer. Et lorsque ce jour sera venu, leur nationalisme européen aura perdu sa raison d'être. L'intégration Europe-États-Unis progresse plus rapidement au niveau des firmes qu'au niveau des États, et les États européens, en défendant les intérêts de leurs grandes firmes, défendent en fait un capitalisme sans nationalité ni patrie.
Bonjour, j'ai regardé hier Billy Elliot là, avec ma fille, et puis ça m'a donné envie. J'étais moi trop jeune à l'époque de tous les faits de ces grandes grèves. Là, je me suis un peu renseigné après le film. ça m'a donné envie déjà de faire une petite dédicace aux familles de mineurs, à tous ces gens qui ont vécu ces atrocités-là, il n'y a pas d'autre mot. Ben, ça m'intéresserait assez, enfin, si à l'occasion, Daniel Mermet et l'équipe, vous pouvez y revenir un peu sur tout ça. Le fond de ce film de répression des grèves des mineurs m'a énormément marqué. C'est surtout ce que j'ai pu en lire après un petit peu sur Internet dans la soirée, quoi. Alors si à l'occasion, vous pouvez faire une petite émission ou deux là-dessus, ça serait pas mal.
Oh, pas une petite émission, on va faire, mais ça tombe bien, hein. Aussitôt dit, aussitôt fait, la mine, les mineurs, on y part demain. C'est pas en Angleterre, c'est dans le nord de la France. Et on va revenir sur une histoire assez oubliée, c'est la grève de 1948, une très grande grève, très importante dans le Nord et qui fut très violemment réprimée par les armes, 6 morts, des peines de prison et 3000 licenciements de gueules noires. 1948, ça date pas d'hier, d'accord, mais voici que depuis 2005, 17 de ces gueules noires, de ces mineurs, se battent pour faire reconnaître leur licenciement pour fait de grève. Ils avaient été licenciés pour fait de grève avec leurs 3000 camarades. Eh bien, ce licenciement pour fait de grève, pour eux, est illégal, la grève étant un droit constitutionnel depuis 1946. Alors, au terme d'un long combat, ils ont fini par gagner la cour d'appel le 11 mars dernier, le 11 mars 2011, a prononcé la nullité de leur licenciement de 1948. Aujourd'hui, l'affaire a été portée en cassation, en cour de cassation, qui confirmera ou non cette reconnaissance donc. Alors, c'est une affaire évidemment très importante par rapport au droit de grève dans notre pays et aussi une occasion de revenir sur l'histoire et la mémoire de cette grève de cette époque des mineurs de 1948. Ce sera une série de reportages de Charlotte Perry. Aujourd'hui, ça c'est demain, aujourd'hui, vous vous souvenez, la semaine dernière, il y a eu un crime de lèse-majesté contre la base. J'y suis. Une demi-heure de l'émission nous a été amputée pour aller à New York pour un direct avec New York pour apprendre que DSK était là avec sa femme et qu'il avait une cravate. Vous vous souvenez qu'il portait une cravate. Ça a duré une demi-heure et vous avez été très nombreux à vous manifester et à protester contre cette amputation de ce chef-d'œuvre quotidien qu'est là-bas si j'y suis. Alors aujourd'hui, ben on va compléter ce que vous n'avez pas pu entendre la semaine dernière. On va vous le faire entendre aujourd'hui. Et c'était une vision des États-Unis, d'Amérique, à travers la chanson française. Depuis bien longtemps, l'Amérique est un thème dans la chanson française, et ça va de l'américanolatrie à l'américanophobie, et ça va être une partie de notre émission du jour. Mais auparavant, on ira avec nos deux jeunes confrères, Gaylor et Sarah, nous irons nous pencher sur une pub qui est passée sur nos radios et en télé un peu partout. Je ne sais pas si elle passe d'ailleurs toujours sur France Inter, concernant le recrutement d'enseignants par le ministère de l'Éducation nationale. Cette pub a fait grincer les syndicats d'enseignants, ainsi que des auditeurs de là-bas si j'y suis. Alors, on a demandé à nos deux jeunes confrères, Gaylor et Sarah, de mener l'enquête, et c'est leur enquête qu'on va entendre. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut les AMG, salut les indignés, salut les AMG indignés. Rendez-vous mercredi 15 à 20h30 à l'Estaminet à Verdun. Le thème de la soirée, indignons-nous. On vous attend nombreux pour ce nouveau repère meusien. C'était Patrick pour le repère de Verdun. À bientôt.
Salut à tous les auditeurs. C'est pour dire que En ces temps où M. Wauquiez, consort, nous oblige presque à nous leur lécher les bottes pour gagner nos 500 euros de pitance mensuelle, j'apprends que l'État français, dans un contrat merveilleux avec des barbouzes à Taïwan, va nous obliger à rembourser 460 millions d'euros sur l'argent public. Faites votre calcul, 500 euros d'un côté, 460 millions de l'autre. Et il faudrait quoi ? S'indigner ? Pardon, s'indigner, mais moi ça me fout la rage plutôt. Il faut s'enrager, se révolter, révolutionner et renverser tous ces soi-disant élites politiques là qui nous gouvernent avec leur arrogance quotidienne. Parce que finalement, au bout du compte, qu'est-ce qui va nous rester ? Soit une réelle révolte populaire qui viendra des masses, violente s'il le faut, parce que là on en est là maintenant, ou Marine Le Pen. Alors fais ton choix, camarade. Salut, c'était Arnaud de Mayotte.
Voilà, on fait notre choix, camarade. Donc, ce spot publicitaire qui passe un peu partout, qui continue de passer un peu partout, me dit-on, et qui suscite des critiques et des interrogations. Gaylor et Sarah ont enquêté. Pour rassurer ceux qui pourraient penser que peut-être, mais c'est pas sûr, on se foutrait de nous.
Écoutons Laura nous parler de ses projets.
Je viens juste de trouver le poste de mes rêves. C'est l'avenir dont j'ai toujours rêvé. Et l'avenir pour moi, c'est de faire vivre et partager ma passion, transmettre des valeurs, des savoirs, me consacrer à la réussite de chacun de mes élèves.
Depuis deux semaines, l'Éducation nationale a lancé une grande campagne de recrutement. Radio, presse écrite et Internet.
Une campagne de communication facturée 1 350 000 euros qui ne vous a pas laissé indifférent. Écoutez cet auditeur, c'était le 2 juin sur le répondeur de là-bas, si j'y suis.
On fait une campagne de publicité en disant « l'enseignement recrute ». En fait, l'enseignement ne recrute pas plus que d'habitude. L'enseignement recrute moins que d'habitude, l'enseignement ne renouvellera pas des postes, l'enseignement a supprimé des postes et va continuer d'en supprimer. Cette campagne de publicité est une campagne de publicité mensongère, c'est une campagne de diversion et d'intoxication de l'opinion publique. Merci de passer ce message et ça serait super qu'il passe juste après un de ces spots, comme ça les gens verront d'autant mieux l'hypocrisie de cette campagne. Au revoir.
L'Éducation nationale recrute 17 000 personnes malgré 33 000 départs en retraite. Pour en savoir plus, nous appelons tout de suite le ministre de l'Éducation, Luc Chatel.
Monsieur Chatel, la campagne de recrutement que vous avez lancée, pourquoi vous avez décidé de la lancer à ce moment-là et de cette manière par une campagne publicitaire ?
Nous avons lancé cette campagne parce que l'Éducation nationale, premier employeur de France, est aussi le premier recruteur de France puisque nous allons recruter 17 000 personnes cette année. Nous avons besoin de recruter les meilleurs talents.
Quel est votre calcul pour la rentrée 2011 au niveau des effectifs de l'Éducation nationale ?
Il y a 33 000 départs en retraite. Sur ces 33 000 départs en retraite, nous en remplaçons 17 000, donc ça veut dire que nous n'en remplaçons pas 16 000.
D'accord, donc moins 16 000 au total sur l'effectif.
Oui, c'est ce qui a toujours été annoncé depuis le mois de décembre.
Mais ce que laisse pas forcément apparaître cette publicité, on est d'accord.
Mais cette publicité, elle est, monsieur, cette publicité, elle est faite à destination d'étudiants qui sont en train de réfléchir à leur avenir et elle a pour objectif de leur montrer qu'il y a une voie intéressante pour eux, qui est le métier d'enseignant. C'est ça l'objectif de cette publicité.
C'était un message du ministère chargé de l'Éducation nationale.
Alors, recruter des jeunes talents, 17 000, nous dit le ministre. Très bien, leur montrer la beauté d'exercer le métier d'enseignant. Mais alors, qu'en pensent les syndicats ? Allons voir le SNES, le Syndicat National des Enseignements du Second Degré. On est dans le 13e arrondissement de Paris et on a rendez-vous avec Daniel Robin, qui est co-secrétaire national du SNES.
Quelque part, il y a une double arnaque. La première, c'est de faire croire qu'aujourd'hui, l'Éducation nationale s'est lancée dans une grande opération de recrutement, laissant entendre qu'il va y avoir plus d'enseignants à la rentrée prochaine qu'il y en avait l'année dernière. Or, s'il y a aujourd'hui un recrutement de 17 000 enseignants, il y a de l'ordre de 33 000 départs à la retraite. Autrement dit, c'est 16 000 enseignants en moins qu'il y aura dans les établissements. La soustraction est facile à faire. C'est ça la réalité. Mais quand donc le ministre dit qu'il recrute 17 000 enseignants, il essaye de faire croire qu'il y a 17 000 enseignants en plus. Alors, ce n'est pas un mensonge de dire qu'on recrute 17 000 enseignants, mais comme l'année dernière et comme l'année d'avant d'ailleurs. C'est je recrute 17 000 enseignants alors que pour maintenir le taux d'encadrement, il faudrait que j'en recrute 33 000. Et c'est là qu'est le mensonge. C'est un mensonge par omission, c'est-à-dire un petit venin que l'on distille en espérant qu'une partie importante de la population qui l'écoute ne fera pas la soustraction que j'ai faite devant vous tout à l'heure. Monsieur Châtel, depuis qu'il est arrivé à ce ministère, pratique beaucoup la com, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'illusion. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas la réalité, c'est la perception que les gens ont de la réalité. Cette pub en rajoute. Elle donne une image du métier d'enseignant qui est en telle rupture avec la réalité, c'est que les enseignants, pour parler un peu vulgairement, ont le sentiment qu'on se fiche de leur gueule. Mais pour essayer de faire passer la pilule, bah on fait du beau. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'épouvantable, mais on fait un paquet cadeau pour espérer faire oublier ce que contient le paquet.
Écoutons Julien nous parler de ses projets.
Je viens de trouver un poste à la hauteur de mes ambitions. C'est le projet professionnel dont j'ai toujours rêvé. Et ce projet, pour moi, c'est faire vivre et partager ma passion, transmettre des savoirs, des valeurs, me consacrer à la réussite de chacun de mes élèves. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir enseignant.
L'éducation nationale recrute 17 000 personnes. Pourquoi pas vous ?
Alors, on continue. Allons maintenant rendre visite à Eve Heinrich. Elle est secrétaire générale de la FCPE à Paris, la Fédération des conseils de parents d'élèves. C'est la première association des parents d'élèves en France.
Bonjour. J'ai tout le temps l'impression d'être face à des effets d'annonce. On recrute. Alors, en plus, ça fait un peu comme à l'armée. Moi, tout de suite, ça m'a fait penser à ça. C'est de l'intox absolu.
Donc là, on est sur un site d'information. Et donc, on a en face de nous les deux affiches qui ont été publiées dans la presse.
Mmh. Laura. Alors, déjà, le titre, ça fait un peu série américaine. Bon, à retrouver le poste de ses rêves, c'est vraiment génial parce que... Bon, quand on voit, bah, moi, je vois souvent des profs, ils m'ont quand même l'air globalement beaucoup plus fatigués et exténués que ça. Et donc là, je trouve ça extraordinaire, surtout qu'elle est plongée dans un livre. Donc bon, j'y vois pas l'énergie qu'il faudrait pour être un professeur. Il me semble qu'il faut un peu moins d'indolence et un peu plus d'action. Mais voilà, c'est quand même un métier physique aussi, par exemple, professeur. Et alors l'autre, Julien a trouvé un poste. Alors ce qui est génial, pareil, ils sont quand même pas devant élèves. Il est devant un ordinateur, on dirait un jeune loup, un futur trader. C'est vraiment génial parce que on est dans un monde d'autistes. Tout à coup, une image propre, belle, lisse, on se croirait d'un truc de com, avec un métier comme ça, très main propre, sans sueur et sans fatigue. Donc quand même, comme par hasard, alors que la mobilisation monte, on n'a jamais eu autant de parents, de citoyens. Il y a une vraie prise de conscience que ça suffit. On ne peut plus continuer à épurer comme ça les moyens. Mais là, ça va devenir n'importe quoi.
Bon, je descends.
C'était quoi ce que tu me racontais, Nils, sur collège, ce que ça veut dire ?
Centre d'otages laissant les élèves galérer ensemble.
Je suis Kaïs Idriss, représentant FCPE, responsable de premier degré sur Paris. L'avenir de nos enfants est en danger. Parents mobilisés, école occupée, parce que nous occupons l'école tous les mardis matins, et cela depuis le mois de février.
Ça, c'est la banderole qui est au-dessus du fronton de l'école.
Voilà, et ça veut tout dire. C'est le cas de beaucoup d'écoles dans Paris et dans toute la France aujourd'hui qui sont occupées et les parents sont mobilisés.
Il y en a une autre, là, sur la droite.
C'est « Ensemble, souvent l'école publique ». Je trouve que c'est magnifique. Ça, pour moi, je suis très fier de le dire. J'ai les larmes dans les yeux parce que ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire. L'école publique, c'est la République. La République, c'est nous tous. Et quand on sauve la République, c'est déjà... On a gagné la guerre. J'ai un mot magique pour l'école, je l'appelle « bricorama ».
Pourquoi ?
Parce qu'on bricole tout le temps. On ne trouve jamais la vraie solution pour les problèmes. On bricole.
Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale.
Je crois que c'est un signal très fort de rappeler à notre jeunesse que dans un moment difficile pour tous les pays développés, regardez ce qui se passe autour de nous en Grande-Bretagne, en Espagne, en Grèce, où un certain nombre de pays ont fait le choix de baisser la rémunération de leurs fonctionnaires, ont fait le choix de licencier parfois leurs fonctionnaires, la France fait le choix inverse. Il n'y a pas deux pays dans le monde qui ont, cette année, augmenté leurs enseignants en début de carrière de 10%. Donc c'est un signal très fort. C'est aussi le signal que nous voulons attirer attirer à nous le maximum de candidatures, le maximum de talents pour un métier exigeant et difficile, mais ô combien magnifique qu'est celui d'enseignant.
C'était un message du ministère chargé de l'Éducation nationale.
Adaptabilité, quoi. C'est comme l'entreprise, il faut être adaptable. Voilà, tu peux faire tant d'heures ici, tant d'heures ici.
Là, on est chez Étienne à Saint-Denis. Il est prof dans un collège. Il s'est réuni avec ses collègues. Et c'est justement l'occasion pour nous d'aller voir ce qu'il pense de cette fameuse campagne de l'éducation qui recrute.
T'es multicasquette, mais tes heures, elles ne changent pas. Au contraire, elles diminuent. T'as plus d'élèves, ce qui fait qu'en plus, t'as plus de travail. Et en dehors de ça, on nous dit que bah non, tout va bien, vous inquiétez pas, on recrute, parce que justement, il manque de gens. Il y a deux discours qui sont antinomiques, et au milieu de tout ça, comment on s'y retrouve et qu'est-ce qui se passe, quoi.
Exactement, pareil.
Je viens juste de trouver le poste de mes rêves. C'est l'avenir dont j'ai toujours rêvé. J'ai décidé de devenir enseignante.
L'Éducation nationale recrute 17 000 personnes. Pourquoi pas vous ?
Je m'appelle Bertrand, j'enseigne l'histoire-géographie depuis 4 ans maintenant et je suis dans un collège en région parisienne. On nous dit on recrute 17 000 postes, ben oui, mais comme les autres années finalement, parce que surtout il y en a quand même 30 000 et quelques qui partent à la retraite. Donc en fait on en supprime 16 000. C'est ça le vrai chiffre, c'est pas on recrute 17 000, c'est on en supprime 16 000. Donc nous ce qu'on vit c'est pas qu'on recrute des gens, c'est qu'on nous en enlève tout le temps. En fait on en recrute pas assez pour remplacer ceux qui s'en vont. Comme métier c'est quand même pas facile et c'est vrai que nous on en a vu qui sont venus chez nous remplacer, qui sont arrivés. Alors il y en a qui étaient très bien, il y en a d'autres qui ont tenu 3 ou 4 jours parce qu'ils pouvaient pas. L'an dernier on avait une prof d'anglais qui est arrivée directement pour faire un remplacement d'Angleterre. Elle parlait pas un mot de français, on l'a embauchée comme vacataire, elle a tenu 3 jours. Forcément la classe il la prenait pas au sérieux, elle parlait pas français. Mais elle cherchait du travail donc elle avait appelé le rectorat pour voir si elle pouvait pas trouver un poste d'assistante ou quelque chose comme ça. Elle nous a dit qu'on lui avait rionné comme quoi elle parlait pas français. Et puis finalement, 3 jours après, on l'avait rappelé en lui disant « Bon, finalement, on a un poste à un collège, là, ça vous intéresse. » Donc voilà, elle a atterri chez nous. C'est sûr qu'elle allait se planter. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on préfère recruter des vacataires parce qu'on les paye que de septembre à juin. Comme ça, si on a besoin de supprimer leur poste, on le supprime. C'est beaucoup moins lourd à supprimer qu'en fonctionnaire. C'est sûr, il vaut mieux, pour l'Éducation nationale, d'une logique purement comptable, en recruter plutôt que des profs normaux.
France Info, le 9 juin 2011.
Les syndicats de l'éducation, eux, préviennent dès maintenant. Ils viennent de lancer un appel intersyndical à une journée de grève fin septembre pour protester contre la suppression de postes engagée par le gouvernement et le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite.
L'Éducation nationale recrute 17 000 personnes. Pourquoi pas vous ?
Voilà un démontage de spot publicitaire par Gaylor et Sarah. Je ne sais pas si ceux qui... craignent qu'on se foute un peu d'eux, sont rassurés, mais voilà, c'était ainsi. Merci à eux. Donc, comme promis, on va se pencher sur l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, vu par la chanson française. C'était une émission de la semaine dernière qui a été coupée en deux par le reportage sur DSK à New York. Et voilà, tantôt on l'aime, tantôt on l'aime plus. En ce moment, avec justement avec cette histoire, il y a un peu de distance. C'est pas la même séduction. Et tout ça est dit dans la chanson française tout au long du XXe siècle. La France, les Français, les chanteurs français, chanteuses françaises ont chanté l'Amérique, mais de façon tout à fait différente et parfois tout à fait contradictoire. C'est notre sujet du jour jusqu'à 16h sur France Inter, la base du Jésus.
Tu crois ?
Mais non, il y en a pour les Américains par là, le moto bicycle, je prends l'hélicoptère, je peux plus rien toucher.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Madeleine, c'est mon Amérique à moi.
Flight number 2, arriving from New York. Ouais.
Si les ricains ne sont pas là,
Amérique, quel pays au monde aura été montré, autant filmé, autant raconté, autant chanté que l'Amérique si les ricains n'étaient pas là? Comment pouvez-vous ne pas être américain? Par malheur, comme moi, vous êtes né à Évreux, à Limoges, à Romorantin, loin de Broadway, loin d'Hollywood. Dans une journée de radio, dans une journée de télé, il y a les infos et il y a les programmes. L'important, c'est les infos, ce qui se passe dans le monde, ce que vous devez en penser. Et le reste, les programmes, c'est divertissement, gaudriole, feuilleton, chanson. Or, c'est là justement que les idées passent, les évidences, les qui va de soi, le cliché, le préjugé, le sens commun. C'est dans ce ressassement des masses médias qu'opère la colonisation mentale. L'idée reçue, c'est par là qu'on la reçoit. Sans filtre, sans critique, gentiment, en rêvant, rêve, sans doute le mot le plus employé concernant le rêve américain. Le rêve, c'est le sommeil, c'est l'hypnotiseur, c'est la définition du cinéma hollywoodien, la propagande par le rêve. Propagande ? Mais montrez-nous la propagande, montrez-nous la manipulation. Toute résistance est vouée au ridicule. La moindre réticence fait de vous un anti-américaniste primaire, autrement dit un ringard amer, coincé, un être borné, xénophobe et peut-être un peu antisémite, un communiste, stalinien indécrottable, qui n'a pas compris que la guerre froide est finie. Ou alors, pire encore, un souverainiste, un nationaliste béret-baguette vitupérant ou un astérix attendrissant. Mais surtout, n'ayons pas de doute sur le modèle américain. Vous n'y échapperez pas de gré ou de force, on vous intéressera. Alors, pour se préparer, pour se consoler, la musique américaine, telle que nous, les Français, on la voit.
Amérique à moi, c'est jamais les gratte-ciel, ni les flics, ni les fusils, ni la drogue, ni le sang. C'est plutôt les enfants qui, sur leur vélo rouge, distribuent les journaux aux portes des maisons. Il y a des bouteilles de lait sur tous les paillassons.
Peut-être même demain. J'espère que mon papa voudra, papa voudra, papa voudra. J'espère que mon papa voudra que je marie avec toi.
Ton papa, je le convaincrai. Ton papa, je le convaincrai, je peux te le jurer.
Si je te reconnais plus. Chérie, je te reconnais plus. Comment t'appelles donc tu?
Pleine du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit. les cow-boys près du bivouac sont réunis.
Un personnage très important du rêve américain, c'est le train. Chanson à sketch pour les TSF en bois. Avec mon frangin, on s'entraînait à marcher comme Gary Cooper dans Le train sifflera trois fois.
Regardez venir à toute vitesse le petit train qui fait le circuit du Far West. À coup de sifflet joyeux, il s'en va du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona. Tous les voyageurs sont déjà prêts, car on le sait exact à deux ou trois jours près. Ils l'emportent indiens, trappeurs et gauchos, de l'Utah par le Kansas jusqu'au Colorado. Le voilà! Mais qu'est-ce qu'on aperçoit? La vache au vieux Jimmy qui est couchée sur la voie. Oh, on s'arrête pour souffler un peu. Chacun dans le wagon se hisse comme il peut. Et puis l'on repart carin-cara du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona. En voiture! Pas un rapide ni un express, le petit train qui fait le circuit du Far West. Il préfère planer de ci, de là, du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona. Mais comme l'un sur l'autre, ils sont tassés. Garçons et jeunes filles ne sont pas pressés. Ils se forment ainsi de gentils duos, de l'Utah par le Kansas jusqu'au Colorado. Les demoiselles font les yeux doux. Les jeunes gens les prennent alors sur leurs genoux. Je parie un chin contre un fidèle qu'ils vont en arrivant descendre au même hôtel. Tous dont le cœur s'abandonna du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona.
Du Texas par l'Oregon jusqu'en Arizona.
Arizona City, tout le monde descend.
Les Ricains en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non, messieurs les Yankees. Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier. Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier. Plan Marshall et pacte atlantique, la guerre au peuple soviétique. Nous ne marcherons pas, nous ne serons pas vos soldats. Les Ricains en Amérique et la France en République. Les Ricains en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non, messieurs les Yankees. Eisenhower se sent nerveux, il en voit rouge, il en est bleu. Eisenhower se sent nerveux, il en voit rouge, il en est bleu. Unis tout en faisant la ronde, tous les gars de France répondent: nous ne marcherons pas, nous ne serons pas vos soldats. Les Ricains en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non, messieurs les Yankees.
1955, Polar, Bagarre, Gilda, Four Noir, Cadillac, Eddie Constantine.
Chez mes mères, Chicago, c'est un coin très rigolo. M'avait dit un de mes copains, vas-y donc, c'est plein d'entrain. Et pour les joyeux lurons, pas besoin d'invitation. Moi, je suis allé une fois, et je te jure que cette nuit-là, ça bardait. T'as sûrement jamais vu un truc comme ça. Alors, deux jours après, vers minuit, j'étais seul avec Jimmy. On ne savait pas quoi faire, je lui dis, bah, allons chez mes mères. À la porte, on en frappait, une voix nous a dit « Entrez !» Et voilà que tout d'un coup, une belle fille me saute au cou. Ça bardait. Je n'avais jamais vu un truc comme ça. Le whisky coulait à flot, un gros type jouait du piano. Les femmes étaient drôlement belles, et les robes sensationnelles. La soirée battait son plein, on flirtait dans tous les coins.
tout le monde est un peu noir. Ah, mes amis, quel pétard. Ça bardait, ça bardait. Vous n'avez jamais vu un truc comme ça. Alors, tous les deux avec Jimmy, on se disait, bah, allons-y. Et on s'est lancé dardard dans la direction du bar. Mais voilà que la salle s'éteint d'un seul coup, on voit plus rien. Les femmes se mettent à hurler, tout le monde veut se débiner. Ça bardait, ça bardait. Vous n'avez jamais vu un truc comme ça. Les bouteilles volaient dans l'air et moi je ne savais plus quoi faire. Quand quelqu'un m'a dit « Fous le camp, c'est la police qui descend ». Tout en tremblant comme une feuille, je me planque sous un fauteuil. Subitement, je comprenais dans quel endroit je me trouvais. Ça bardait, ça bardait. Vous n'avez jamais vu un truc comme ça. Mais pendant que j'étais caché, la lumière s'est rallumée. Un agent me dit « Coucou, imbécile, sortez de la zone. Vous allez finir la nuit avec votre ami Jimmy. » Les autres se sont envolés, mais vous deux, vous êtes coincés. Pour la première fois de ma vie, avec le pauvre Jim, on me collait en prison, malgré mes supplications. Et pour me faire libérer, c'est ma femme qu'ils ont appelé. Inutile de préciser tout ce qu'elle a pu me raconter. Ça bardait, ça bardait. Vous n'avez jamais vu un truc comme ça. Ça bardait, oh, ça bardait. Ne me parlez plus jamais de ces nuits-là.
Ce siècle aura été le siècle de l'Amérique. Et voilà, histoire de vous consoler de n'être point américain, voilà comment cette Amérique a été chantée dans la chanson française. Sociologue, historien, pourrait déceler dans ses chansons l'influence de l'histoire, guerre froide, guerre du Vietnam, lutte pour les droits civiques. Voilà comment le beau Serge voyait New York, USA.
J'ai vu New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York. New York, USA, Empire State Building,
Océan,
Rockefeller Center,
Océan,
International Building,
Océan,
Waldorf Astoria,
Océan,
Pan American Building,
Océan,
Bank of Manhattan,
Océan.
Des mots, des rythmes et des chansons qui, l'air de rien, témoignent de ce que fut notre rêve américain, l'American Dream, en VF, avant que le modèle américain ne s'impose à toute la planète, dans les moindres replis des cœurs et des têtes, en 1965, Sucette, Socket, Lolita, Teenager.
Je voudrais prendre l'avion pour l'Amérique. Ah, que j'aimerais connaître à mon tour l'Amérique. Ah, que c'est tentant d'aller visiter l'Amérique. Quand on a rêvé depuis 17 ans d'Amérique. Les vitrines des grands. mocassins d'Amérique.
Niaiserie, insulte à l'intelligence ou poursuite de la collaboration par d'autres moyens, l'impérialisme culturel américain a utilisé toutes les voies possibles.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois ça me met en joie d'écouter jouer sur un crin-crin un vieillard du folklore américain. Aussitôt je me vois déjà au fin fond de l'Arizona, affublé d'un grand chapeau et grattant sur un vieux banjo. Ça me fait rêver, et pourtant je n'y suis jamais allée. Mais je connais tous les refrains, tous les airs du folklore américain.
Et je sais qu'un jour viendra où j'irai faire un tour là-bas pour pouvoir danser aussi comme les filles du Tennessee. Wow!
Ça, c'est pour les petits-enfants à qui leur mamie en fait croire que c'était beaucoup mieux avant. Y a-t-il une seule de ces chansons qui, en retour, ait franchi l'Atlantique ? Bien peu de chance. L'Amérique protège son marché. Par exemple, en matière de cinéma, on sait que les États-Unis n'achètent que 1% de films étrangers. Alors, vous pensez, notre Sardou, parce que c'est lui qui a atteint le sommet, l'anti-américanisme, doit écouter maintenant le message de Michel.
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé, les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier, dit, qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi pas. Bien sûr, les années ont passé, on est devenus des copains à l'amicale du fusillé. On dit qu'ils sont tombés pour rien. Si les ricains n'étaient pas là.
C'est pas dans tous les domaines que la chanson française raconte l'histoire, raconte notre histoire et cette histoire qui nous lie étroitement avec les États-Unis d'Amérique. Il y a eu Sardou, Johnny Hallyday, bien sûr, on l'a entendu. Puis il y en a un autre très important qui lui aussi s'est donné un nom américain, c'est Eddie Mitchell, et qui sans doute raconte le plus ce mélange, ce pont impossible.
Elvis, au cœur de Memphis, je traîne là en touriste. Ben où sont mes racines, Nashville ou Belleville, Jerry Lee Lewis, killer et pianiste, barbe le sudiste. C'est même pas si j'existe sans faire de racisme. Où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Mais où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Où? Mouflet, j'allais voir Luis Mariano dans le chanteur de Mexico. et moi on rentrait en métro. Station Opéra, direction les Landes. Nostalgie facile, mes swings pas terribles. Où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Monsieur Bill Allen, bien avant Presley, déjà décoiffé, m'éclate dans la tête avec ce comète et place des fêtes sur nos mobilettes. On sent James Dean, mais où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Mais où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Mon flame, j'allais voir Luis Mariano dans le chanteur de Mexico, maman. Et moi, on rentrait en métro, station Opéra, direction Lila. Nostalgie facile, mais swing pas terrible. Où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Boulevard Elvis, au cœur de Memphis, je traîne là en touriste. Mais où sont mes racines, Nashville ou Belleville? Guitare.
Impossible, impossible de vous faire entendre toutes les musiques françaises, les chansons françaises qui parlent de l'Amérique. Mais ce qu'on sent très bien, au cours des années 70, c'est le début d'une désillusion, c'est une distance. C'est Higelin qui chante Paris-New York, New York-Paris, qui commence à raconter la déglingue. Gilbert Bécaud qui raconte sa déception de l'Amérique. Tout d'un coup, eh ben oui, il y a l'échec pétrolier, il y a la crise, il y a une distance qui s'installe, il y a la guerre du Vietnam. L'Amérique n'est plus ce qu'elle était. D'ailleurs, ça n'a plus d'importance. Elle n'est plus ce qu'elle était parce qu'elle est partout. On la chante moins, c'est pour la raison pour laquelle on la chante sans doute moins aujourd'hui, parce qu'elle est vraiment le modèle américain, le mythe américain s'est étendu évidemment à toute la planète. Mais en 1995, IAM, le groupe IAM, chante Americano. Tu veux faire l'américain, je fais l'américain, mais qui se la joue français ?
Cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, scappetto, cislaga, un cavallo scivolo, ma tutta qua alla rutolo, ma che cazzo è quando mi parlo, giro con questo microfono, ti parlo, mezza via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affatica, marino, scivolo, affatica, mannaggia, capatore, mannaggia.
Le baby napolitain fana, oui j'ai bouffé du poulpe pendant 20 ans comme Antonio Montana. Pour moi tous les Français étaient de la sorte, mais que savais-je de la vie enfermée derrière une porte. Quelque chose dans le sang parle tout bas. À Paris je suis perdu, en Sicile je suis chez moi. La Méditerranée chante dans mes paroles qui s'envolent. Je me rappelle à l'école, je voulais être différent, original dans le vent. Ça criait l'Amérique dans tous mes vêtements. Interloquer les ignorants, glousser comme des idiots. Ok, j'ai laissé passer les rires. J'ai flippé, puis pardonné car j'aime mon peuple en mourir. Je fais l'américain, c'est un fait. Mais qui se la joue français et pèse les pieds du petit maigret. J'ai ces types aux origines truquées. Que Dieu fasse miséricorde à la mémoire étriquée. Si tu n'es pas de ma famille et que ton crâne sonne creux, chante-moi tant que tu veux.
Tu veux voir l'américano, américano.
Tu veux faire l'américain.
Tu veux voir l'américano, américano, américano. Tu veux voir l'américano, américano, américano.
Tu veux faire l'américain.
Tu veux voir l'américano, américano, américano.
Bye 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 bye. Tout gosse déjà, j'étais fasciné par le pays des buildings, des taxis jaunes et sing sing, des filles à maillot bronzé sur la plage, des limousines, des méchants indiens, des policiers qui gagnent toujours à la fin. Moi qui voulais devenir flic à New York paye désormais les affres d'être une crapule à Marseille. La télé faisait tout pour que mon songe vive. Je me nommais Philippe et rêvais de ma peau d'esquive, jusqu'au jour où j'ai pris l'avion en 84 et tout
a changé dans ma tête, ce fut une belle claque. En fait, très vite, j'ai une honte terrible pour des 4 millions d'indiens d'Amérique. J'étais mon casque de baseball qui faisait rigoler mes amis à l'école. Et pourtant, ils étaient aussi tous des petits ritals. Pourquoi ils voulaient danser le disco comme John Travolta? Le rêve américain ruine. J'irai poser des fleurs sur la tombe de Pépé Joseph à Brooklyn. S'il m'avait vu à 15 ans, il aurait sûrement dit avec son accent.
Le rêve américain, c'est Johnny, c'est Joe Dassin, c'est Sheila, c'est France Gall. Je parle de la version française, de la façon dont nous, dans nos chansons françaises, nous avons vu l'American Way of Life. Mais il y a un moment, je le disais, ça bascule et même ça se retourne et même c'est le rejet total. Souchon, tout d'un coup, parle lui aussi du passé d'une illusion.
Tout ce que tu m'as dit, vieux Scott Joplin maudit, tout ce que tu m'as dit, c'était menti. Tu disais le bonheur, c'est un gros pétard caché dans les crinolines, les autocans. Tu disais l'industrie et l'agriculture, tu disais la sur la Côte d'Azur et de Karl Marx la rêverie et le Tsarevitch Alexis. Tout était menti. Scott Joplin maudit. Tout ce que tu m'as dit, vieux fax-waller maudit. Tout ce que tu m'as dit, c'était menti. Tu disais le bonheur, c'est un gros pétard dans les mains d'Al Capone à Chicago le soir. Tu disais Metro Goldwyn, les de Soto, les Packard, Billy Palmer, un jour j'aurai ma part. Armstrong et Stormy Weather.
Il y a eu le temps de l'adulation aveugle, il y a le temps du rejet total, l'Amérique dans la chanson, l'Amérique dans les cœurs, l'Amérique dans les têtes, l'Amérique partout, le générique même de cette émission. Eh bien, c'est une Harley Davidson, c'est un thème américain qui s'appelle Love Yourself, c'est un grand musicien, le plus grand musicien qui est Miles Davis, et c'est l'annonce d'un aéroport, de l'aéroport de New York, si bien que on est nous aussi dans le coup. Heureusement pour nous sauver, il y a les satellites. Ça vous aurait échappé, c'est peut-être une heure consacrée à l'Amérique vue à travers la chanson française. Pas seulement, puisqu'en première partie, on avait un démontage de spots publicitaires par Gaylor et Sarah Lefebvre et Gaylor Van Vimersch. Merci à tous. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, la rubrique émission La Basse Vie, où vous pouvez réécouter cette émission. Et comme il me reste quelques secondes, je voudrais évoquer un bouquin qui sort ces temps-ci, signé de Frédéric Lordon, d'un retournement à l'autre, et c'est une comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrin, c'est-à-dire que Frédéric Lordon s'est mis à écrire en alexandrin, et c'est tout à fait réjouissant et c'est très intéressant. J'espère qu'on fera une heure avec lui là-dessus, enfin un morceau d'émission au moins, parce que c'est quand même assez gratiné, des très beaux vers par moment, et évidemment il y a de l'humour, mais c'est quand même une explication assez affectueuse, vous verrez pourquoi je vous dis ça, affectueuse de la crise. Ce qu'on appelle la crise, affect et concept ne vont jamais séparément si l'on veut faire passer des idées. On reviendra là-dessus à la technique aujourd'hui. Sophie Moreno et Patrick Henry, Coyen Guyenne et Franck Allerer ont réalisé cette émission. Assistez d'Agnès Lebot et Marina. Attends vos messages sur le répondeur de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Écoutons Julien nous parler de ses projets.
Je viens de trouver un poste à la hauteur de mes ambitions. C'est le projet professionnel dont j'ai toujours rêvé. Et ce projet, pour moi, c'est faire vivre et partager ma passion, transmettre des savoirs, des valeurs, me consacrer à la réussite de chacun de mes élèves. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir enseignant.
L'Éducation nationale recrute 17 000 personnes. Pourquoi pas vous ? Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 juillet sur l'éducationrecrute.fr. C'était un message du ministère chargé de l'Éducation nationale.
Alors voilà, le spot en question, ben vous pouvez aller sur France Inter, rubrique émission là-bas si j'y suis, et voir la critique que nos deux jeunes journalistes, reporters de là-bas si j'y suis, en ont fait, ou bien aller sur là-bas.org, vous retrouverez une autre copie de l'émission. Il est 16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h, la grève de 1948 dans les mines du Nord, avec Charlotte Perry. Je vous laisse pour les infos avec Julie Gacon. Salut.
Bonjour. Les électeurs italiens n'ont pas voulu laisser passer l'occasion. Ils se sont déplacés en masse pendant ces deux jours pour se prononcer sur le référendum lancé par l'opposition. 57% d'entre eux ont répondu à l'appel, chiffre officiel. Le scrutin portait sur l'abolition des lois berlusconiennes sur le retour du nucléaire, la libéralisation de l'eau et l'immunité judiciaire du président du Conseil. Le référendum a donc atteint le quorum nécessaire pour être pris en compte. D'après un sondage de sortie des urnes, plus de 90% de ceux qui se sont déplacés ont voté contre les intérêts de Silvio Berlusconi. La bactérie E. coli a fait un nouveau mort en Allemagne. C'est sa 36e victime depuis le début de l'épidémie. Celle-ci est toutefois en recul, assurent les autorités, qui ont par ailleurs identifié formellement ce week-end l'origine de la contamination, des graines germées issues d'une ferme bio dans le nord de l'Allemagne, à Binnenbüttel. L'Allemagne qui reconnaît officiellement la rébellion libyenne comme seule représentant légitime du peuple libyen. Le ministre des Affaires étrangères a passé la journée dans le fief des insurgés, la ville de Benghazi. Jusqu'à présent, l'Allemagne était plus timorée sur le sujet. Elle s'était abstenue en mars au moment de voter la résolution de l'ONU autorisant le recours à la force contre le régime libyen. Après y avoir introduit ses chars et ses blindés, l'armée syrienne ratisse les environs de Jisr al-Shogour, près de la frontière turque. Des témoins parlent de centaines d'arrestations, des hommes de 18 à 40 ans pourchassés jusque dans les bois. Toujours selon ces témoignages, près de 7000 Syriens ont déjà fui la région pour chercher refuge en Turquie voisine. La petite fille de 5 ans, enlevée hier dans l'Ain, à Nièvrose, a-t-elle été victime de violences de la part de son ravisseur ? Un médecin légiste et un psychologue doivent tenter d'établir ce qui s'est passé hier pendant ce très court laps de temps, quelques heures pendant lesquelles la petite fille a disparu. Un homme est en garde à vue à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Il est connu des services de police pour des faits liés à la diffusion d'images pédopornographiques. Ça commence à coincer sur les routes pour les retours de week-end prolongés. Ça commence simplement car les difficultés sont plutôt attendues vers 17h. Pour l'instant, ça roule pas mal, hormis d'abord dans l'Ain, sur l'A40 en direction de Lyon. Si vous devez prendre le tunnel de Chamoise, le CRIR vous suggère d'éviter le secteur. Ça se charge aussi sur l'A10 à hauteur d'Ingré, sur l'A13 au niveau d'Oissel et sur l'A40 à Nérolles. Enfin, en Ile-de-France, un secteur un peu plus compliqué en ce moment, c'est sur l'A13 entre Roquencourt et Saint-Cloud. Si vous aviez choisi l'avion pour rentrer, les perturbations n'excèdent pas les quelques dizaines de minutes de retard à l'aéroport de Roissy. Ce sont les chiffres en tout cas de la direction d'Air France, alors qu'une grève de mécaniciens au sol lui a laissé craindre une journée plus compliquée encore. Le mouvement, malgré tout, est très suivi par 80 à 90% de ses salariés qui demandent une revalorisation de leur salaire.
c'est jouissif.
À partir de 11h.
Oui. Le fou.
Le roi.
Stéphane Bern.
Bernard Pivot, vous êtes à la langue française, que Stéphane Bern est au brushing, une référence.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Valérie Pécresse, Axel Kahn et Sylvain Tesson, rendez-vous demain mardi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
On va pas y arriver.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter. À partir de 11h, France Inter, France Inter,
la différence.
À 16h et bientôt 4 minutes sur France Inter, et bien c'est le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Julie. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour commencer, un jeune pianiste bardé de titres, il s'appelle Tristan Pfaff, et nous est montré du doigt affectueusement et avec beaucoup de respect et d'amitié par le festival d'Auvers-sur-Oise, dont nous sommes partenaires, je le rappelle. Donc Tristan a gravé son premier récital autour de Franz Liszt, des œuvres connues, moins connues, et puis un talent tout à fait indiscutable. Voici par exemple la Danza, tarentelle napolitaine d'après Rossini, c'est tiré de ses soirées musicales et revue pour le piano par Franz Liszt. La danse tarentelle napolitaine d'après Rossini, transcrite par Franz Liszt pour piano seul, comme on l'a entendu, interprétée par Tristan Pfaff. Et voici ce jeune lauréat de tant de concours, protégé du grand rassemblement d'Auvers-sur-Oise, du grand festival, du consortium de talents, voire de génies, que nous accompagnons ici à France Inter. Voici donc une pièce plus douce, le Rêve d'amour, troisième nocturne. Et là, c'est une transcription de Franz Liszt par lui-même, puisque c'est une mélodie qu'il avait composé un peu plus tôt, vers 1845, avant même la transcription. Et les paroles si tendres de cette mélodie, c'est « Oh, aime aussi longtemps que tu peux aimer », tout simplement.